Je m'appelle Marielle et grâce à mon travail, je donne des cours de français à des adultes étrangers. J'ai le plaisir de rencontrer des personnes venant de pays différents, vivant depuis peu d'années en France. Et parce qu'on entend beaucoup parler d'elles dans les médias, en des termes génériques, mais qu'on les entend peu parler d'elles de façon directe et individuelle, j'ai eu envie de leur donner la parole pour qu'elles nous racontent leur parcours et leur vie ici, qu'elles nous parlent de leur pays d'origine et de la France. Et je leur ai proposé aussi de nous faire écouter une musique de là-bas et une musique d'ici qu'elles aiment particulièrement.
Bonjour, je m'appelle Saïda, je viens d'Afghanistan, un pays qui est, je pense, que très bien connu à cause des guerres longtemps. Et j'ai 35 ans, je suis mariée et j'ai un fils de 3 ans. Et je suis arrivée en France en août, 27 août 2021. Pour l'instant, j'habite à Reims. Et mon arrivée en France, c'était à cause de situation politique dans mon pays. Et en août 2021, c'était le temps que le gouvernement d'Afghanistan est tombé. Mmh. Et les talibans sont arrivés au pouvoir. Et la situation, c'était un peu dangereuse pour certains des Afghans à cause de situation professionnelle et tout ça.
Et tu faisais quoi comme travail, Saïda?
Je travaillais en Afghanistan, je travaillais dans un bureau, c'était une organisation ONG.
Humanitaire?
Comment?
Une organisation humanitaire?
Oui, une organisation humanitaire d'Angleterre. Moi, j'ai fait mes études de licence en économie et gestion à l'université. Et après, j'ai commencé à travailler dans un bureau comme stagiaire et après commencé comme salarié. Mais dans différents métiers, parce qu'en Afghanistan, il y avait beaucoup d'organisations humanitaires qui travaillaient dans différents domaines. Et à cause de ça, il y avait beaucoup de différentes matières, différentes professions.
Oui.
Et pas long terme, c'était comme projet.
D'accord.
Très court.
À court terme.
Oui, court terme. À cause de ça, on changeait rapidement le métier. Et moi, je travaillais beaucoup pour les enfants qui étaient touchés par la guerre, pour la protection des enfants, et puis pour les droits de femmes, et pour les affaires administratives, pour ressources humaines et tout ça. Et mon mari, il était comme journaliste, et il travaillait avec différents organisation et comme journaliste sans frontières et journaliste dans radio locale et avec les journalistes français aussi. Et après les talibans, les talibans, on a quitté le pays et c'était parler des journalistes français qui nous aidaient pour quitter le pays.
D'accord.
Et tout ça, c'était arrivé très très vite, juste dans quelques jours. Par exemple, aujourd'hui, je suis dans ma... J'ai tourné de la maison, je suis restée à la maison et j'ai reçu un message pour que je dois quitter. Je dois...
Prendre mes affaires.
Oui, prendre mes affaires très
rapidement.
Rapidement et pas très valise très lourde, non, juste un sac à dos. Et je dois aller au Kaboul, c'était la capitale de mon pays, pour quitter l'Afghanistan. Oui. Et par exemple, ce soir, j'étais au Kaboul.
Oui.
Et
le lendemain,
j'étais à Paris.
D'accord. Vous avez pris un avion ?
Oui. On est. Tout ça, parce que la situation, c'était très. Comme crise. Dans l'aéroport civil, c'était tout fermé.
Oui.
L'autre partie, c'était l'aéroport militaire. Mm-hmm. C'était de différents militaires de différents pays. Et pour nous, c'était le militaire de français. D'accord. Qui nous aidait pour partir. Donc, c'était... parti par l'avion de militaire de français.
D'accord.
De Kaboul jusqu'à Abu Dhabi.
Oui.
Et après une pause, on est par...
Vous avez pris un autre avion d'Abu Dhabi à Paris ?
Un autre avion de Abu Dhabi jusqu'à Paris. Après, on restait à Paris pendant presque 3 semaines dans un hôtel. Et... Après, on est pour faire quelques administratives démarches, comme demande d'asile, tu sais. Après, on est transmis à Épernay.
D'accord.
On n'avait aucune idée qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est les démarches après. C'était juste, on juste attendait pour les autres qui nous aidaient pour les démarches qu'on doit suivre. Et après arriver à Épernay, on était sûr qu'on va rester ici. On a commencé une nouvelle vie à Épernay avec beaucoup de défis.
Beaucoup de défis?
Oui.
Ouais.
Parce que tout était...
À recommencer.
La société, c'était une nouvelle, la langue... Et tout ça, c'était arrivé dans un temps très court. On était encore... notre pensée, c'était en Afghanistan, avec qu'est-ce qui se passait dans l'Afghanistan. La vie pour tout le monde a changé dans un temps très court. On avait du temps pour réfléchir. On était comme une personne qui est confuse. Qui est perdu.
Oui, parce que votre esprit était en Afghanistan,
exactement.
Et votre corps était...
Et ici aussi, la vie, c'était... on avait beaucoup de défis, challenges dans la vie, pour les choses très, très basiques. On ne savait pas qu'on doit faire quoi, on demande qui, on allait où, on doit aller où...
La première structure qui vous a aidé à Épernay, c'était...
C'était le club de prévention.
Club de prévention.
Oui.
Pour le logement.
Oui, on parle club de prévention. Et mais quelque chose très très simple, pour la nécessité très très simple, qu'est-ce que on a besoin de petites choses, on savait pas de demander, on n'avait pas de communiquer, c'était trop difficile. Et moi je me souviens que notre assistante sociale nous a emmené de gare jusqu'à l'appartement et on a resté dans l'appartement pendant presque une semaine. Mm-hmm. Sans voir quelqu'un.
D'accord.
On avait juste le portable et heureusement l'Internet.
Ouais.
Avec cherche sur Google, cherche sur Google Maps pour trouver les endroits, l'adresse et le traducteur. pour traduction.
Vous parliez un peu en anglais?
Oui, on parle anglais, mais malheureusement, ici, quand on parle en anglais, quelqu'un qu'on ne comprend pas et je pense que anglais ça marche pas presque rien. Ouais. Mais ça dépend. À Paris un petit peu, mais à Épernay pas beaucoup. Et
donc après la première semaine où vous étiez dans l'appartement, après vous avez commencé.
Oui. Après moi, je me souviens, j'ai envoyé quelques SMS, quelques messages à mon assistant social pour. Et on fait quoi? On a besoin de quelque chose. Et après une semaine, elle était venue pour nous introduire dans le bureau de club de prévention, différentes parties de différents services de club. Et on a demandé pour le cours de français parce qu'on avait, compris que la première chose qu'on doit faire, c'est apprendre la langue française pour communiquer. Pour,
oui, c'est plus simple. Oui.
Oui. Et on a commencé cours de français avec le club de prévention, mais ce n'était pas suffisant parce que c'était juste 2 fois par semaine et pour nous, c'était comme rien. Je pense qu'apprendre une nouvelle langue, au début, c'est la plus difficile étape.
Ouais.
L'étape la plus difficile. Donc, on a besoin de mettre plus de temps au début. Et après, quand on commençait un peu, ça serait un peu plus facile. Donc, on a cherché d'autres parts, on a demandé pour autres cours et on a trouvé 6 cours catholiques. Mm-hmm. Et on a commencé cours de français là-bas avec Anne-Marie. Et on a compris que pour nous, ça nous aide beaucoup pour débutants. Anne-Marie est vraiment un professeur très, très professionnel. Et on a juste continué avec Anne-Marie pour apprendre le français. Malheureusement, je peux continuer juste pour quelques mois. Après, j'étais enceinte et j'ai eu quelques problèmes parce que ma grossesse n'était pas normale. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé et j'ai obligé à arrêter. Le cours, d'aller au cours de français juste après l'accouchement. Et moi, je recommençais à apprendre le français. Et ce temps, juste moi, mes concentrations, c'était mm-hmm. juste pour apprendre le français parce que je savais que tout le problème, c'est avec la langue. Mm-hmm. Si je sais la langue, si je connais la langue, je peux parler, je peux communiquer, je peux faire tout dans la vie quotidienne, dans la vie personnelle et peut-être après le professionnel. Donc, j'ai recommencé à apprendre le français avec un autre professeur à la maison pour tous. Mm-hmm. Elle m'a corrigé beaucoup. Elle m'a encouragé beaucoup mm-hmm. pour
progresser
et pour continuer pour l'examen de TELF. Et j'ai passé l'examen de TELF pour le niveau ado. Après l'année prochaine avec
l'année vous. Suivante.
Oui, l'année suivante avec vous, Marielle, pour le BA. Et voilà.
Tu peux nous raconter un peu tes activités depuis que tu vis ici? Alors, tu vois, on a parlé des cours de français.
Pour l'instant, je pense que je fais rien dans la vie quotidienne jusque j'ai, comme j'ai déjà raconté, j'ai un fils de 3 ans, bientôt 3 ans. Il est très, très hyperactivité.
Il est hyperactif?
Oui, très, très dynamique et... Il m'apprend, il m'apprend beaucoup d'énergie dans la vie normale. Ça fait pas trop longtemps que j'ai déménagé à Reims. Et il m'a pris du temps pour installer là-bas et tout ça. Dans la dernière année, je peux apprendre un petit peu la langue et pas quelque chose spécial, mais j'espère que je peux améliorer encore mon niveau de langue française. Après, je vais suivre une formation professionnelle pour être capable de travailler dans un bureau ou peut-être quelque part d'autre. Parce que j'ai un peu de problème de santé qui m'empêche physiquement. Pour ça que travailler pour c'est un peu dur travailler partout. Il faut bien apprendre le français, avoir un bon niveau et un bon compétences pour être capable de travailler un peu plus à l'aise.
Oui. Et t'aimerais bien faire une formation dans un domaine particulier, en comptabilité, tu m'avais dit.
Oui, parce que moi je travaillais beaucoup dans domaine ressources humaines, ah oui. Et donc comptabilité un petit peu, mais mes études c'est plus en économie, comptabilité et tout ça. Mais ici, à cause de la langue, dans le domaine de ressources humaines, je pense que c'est nécessaire d'avoir un bon niveau de langue pour communiquer avec, pour expliquer, communiquer. Mais pour la comptabilité, c'est plus travail avec les chiffres.
Plus simple.
C'est plus simple. Et pour moi aussi, moi, je vais bien dans la comptabilité. Et pour ça que je... C'est mon projet de suivre une formation dans ce domaine. J'espère que je réussis.
Ben oui.
Mais pour l'instant, c'est juste la vie quotidienne. Je profite de la vie quotidienne avec mon fils, avec la nature. Parce que dans mon pays, c'était l'ambiance c'était complètement différent, surtout pour les femmes. C'est beaucoup de restrictions pour les femmes. Et moi, je me souviens que toujours quand j'étais fatiguée à la maison, quand j'avais besoin de sortir quelque part toute seule, mais je n'avais pas le chance ou l'opportunité, où il n'y avait pas de quelque part juste de rester, de profiter de la nature, de rester tranquille. Et toujours, moi, je regrettais pourquoi il n'y a pas de cette possibilité pour les femmes. Mais ici, toujours, il y a beaucoup, heureusement, il y a beaucoup de jardins, beaucoup d'espaces verts. Et toujours, moi, j'en profite et je me souviens qu'un jour, c'était mon rêve. Et maintenant, j'en profite. Et voilà, j'en profite de la vie quotidienne avec mon fils parce que le temps passe très, très vite. Il se grandit très vite. Mais l'année prochaine, il va commencer à aller à l'école et j'aurai beaucoup de temps pour moi-même, pour suivre mon projet professionnel.
Et recommencer un peu des cours de français, tu aimerais bien
Après déménagement, non, parce qu'en cours, c'était la raison à cause de mon fils.
Mais quand il ira à l'école, peut-être tu auras du temps pour toi.
Crèche pour juste une garderie, mais c'est à cause de accueil occasionnel. S'il n'y a pas beaucoup de disponibilité, ça ne m'aide pas beaucoup pour suivre un cours de français. Juste pour quelque chose, pour faire quelque chose à la maison, ça m'aide, mais pas pour suivre quelque chose régulièrement, non. Pour ça que j'attends pour la rentrée prochaine. Et après la rentrée prochaine, j'ai beaucoup de projets pour moi-même, pour ma CV.
Et avant d'habiter à Reims, t'habitais à...
J'habitais à Épernay. Après arriver en France, j'habitais à Épernay jusqu'à décembre 2024.
Et t'étais contente de déménager à Reims? C'était un choix?
Oui, bien sûr. À Épernay, j'aimais bien à Épernay aussi. C'est une ville très, très belle. Il y a beaucoup des endroits pour en profiter, mais pour quelque chose, suivre un projet professionnel pour moi et pour mon mari, c'était un peu compliqué. Pour ça qu'on a décidé de déménager sur Reims. Il y a beaucoup d'opportunités sur Reims, beaucoup de choses on peut faire à Reims. Et pour ça qu'on a décidé à déménager. Et bien sûr, pour au début, après déménagement, pour installation, il prend un peu de temps. Mais après, ça va mieux.
D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait, presque comme une mère, tu me bordais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je vais crier. Je t'aime, je t'aime. Oh, je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets. Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre de corps qui se faisait la paix. Je t'aime, je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma.
Saïda, avant de vivre en France, qu'est-ce que tu avais comme image de ce pays et des Français ? Après, tu n'as peut-être pas trop eu le temps, étant donné que tu es partie très très vite d'Afghanistan, mais...
Je connaissais la France. De l'histoire du monde à l'école. Au lycée. Et après, dans le film, dans le roman, et que la France, c'est le pays de l'art, de la musique, de la parfum, de la mode. Et c'est la France et les Français. Ils sont très, les peuples très révolutionnaires. Parce que dans l'histoire du monde, et toujours dans l'histoire de France, il y avait des révolutions. Les Français, elles étaient pas contentes, les politiques et tout ça.
Ouais.
C'était juste les images que j'avais de la France et les Français. Et par rapport de la langue française, juste j'ai une collègue des États-Unis, de petit pays du centrale d'Amérique, c'est Honduras. Elle parlait espagnol et quand elle parlait espagnol avec sa famille, moi j'aimais beaucoup le rythme qu'elle parle
de la langue
espagnole. Et un jour, on a parlé et elle nous a appris quelques mots. Et je me souviens toujours le jour-là qu'elle m'a dit la langue espagnole, italien et français, elles sont presque pareilles, mais l'italien, espagnol, ils sont comme frères et sœurs. Mais le français, c'est la mère. Et c'est la plus difficile langue entre trois langues.
D'accord.
Et après, arrivant en France, moi, j'ai compris que c'est vrai. C'est vraiment difficile. C'est une langue vraiment difficile. C'était juste ma image. Mais toujours à Paris. C'était la vie de Marif. Et parce que dans le roman, dans le film, moi, j'ai appris que beaucoup de Tours Eiffel, de Champs-Élysées, il y a beaucoup de cafés, les gens passent beaucoup de temps dans le café.
Pour boire moi... l'apéro. Oh.
Et quand j'arrive en France, quand j'étais dans l'hôtel à Paris, mm-hmm. et en face de l'hôtel, il y avait beaucoup de cafés, et toujours jusqu'à tard de soir, il y avait beaucoup de personnes dans le café, parler. Par rapport aux Français, moi j'avais l'impression que pas juste les Français, les Occidentaux, ils sont très froids, ils sont pas très sociables, mais après arriver quand je vois que les gens passent beaucoup de temps dans le café, ils parlent beaucoup, ils bavardent,
ouais.
Oui. Et moi je me dis toujours, ils sont très sociables, ils sont très très ils passent très temps beaucoup de temps ensemble. Je ne savais pas, peut-être c'est le style de vie à Paris, parce que l'appartement,
aussi à Paris, parce qu'il y a beaucoup de cafés.
C'est très, très mais oui. petit.
Mais les Français voilà. passent du temps.
Mais normalement, oui, les Français, ils ne sont pas... ils parlent, ils sont très sociables, ils mm-hmm. parlent, ils discutent sur les petits sujets, ils parlent beaucoup, ils discutent beaucoup.
Oui. Et quand tu es arrivée en France, c'est quoi qui t'a surpris le plus? Plus.
C'était les bureaucraties.
Les
bureaucraties.
La bureaucratie?
Oui.
Les démarches administratives,
les démarches administratives, les papiers, les lettres. Et moi, je pensais que les démarches, elles sont plus numériques. Par email, mais toujours, c'était en papier. Et il faut attendre beaucoup, beaucoup de temps. Et quand... Par exemple, on demandait quelque chose, on a posé quelque chose, et on était répondu qu'il faut attendre, il faut attendre. Et on attendait un mois, deux mois, quelques mois pour un papier ou peut-être une lettre, une réponse. Et pour nous, c'était vraiment bizarre. Pourquoi
on c'est si long.
Oui, les administratifs démarches, c'est trop long. Mmh. Mais maintenant, toujours, on est très patient. Toujours, on attend.
Vous avez appris la patience administrative.
Et mais pour les autres personnes qui sont... arrivé récemment,
oui.
on conseille, attends, il faut être patient.
Est-ce que tu es dans les plats traditionnels français, est-ce que tu as goûté, est-ce que tu en as goûté déjà, est-ce que tu as lequel tu as préféré ou...
Honnêtement, pas très plat spécial de français, oui. mais peut-être quelques produits français, oui. et surtout le fromage. Au début, pour moi, l'odeur, c'était très fort. Et moi, honnêtement, je n'aimais pas. Mm-hmm. Quand je rentrais dans le supermarché, pour moi, c'était trop difficile et...
De marcher dans le rayon
oui.
fromage.
Pas juste dans le rayon fromage et dans tous les supermarchés. Mmh. Au début, je sentais pourquoi ici quelque chose, les produits quand quelque chose. Oui. Mais après, doucement, je me
habitue.
Oui. Et maintenant, je mange un petit peu de fromage.
Et tu aimes bien ou tu t'obliges?
Ça dépend parce qu'il y a beaucoup plein de variétés.
Oui.
Et c'est, Ça dépend de quelques fromages, ils sont très forts. Moi, encore c'est tout. Il prend plus de temps de s'habituer, mais quelques fromages j'aime bien et je mange. Normalement, chez nous, on mange beaucoup de produits laitiers aussi, mm-hmm. mais c'est la texture et la forme, c'est un peu différent.
Oui. Est-ce qu'il y a des choses en France qui n'existe pas en Afghanistan, qui te manque des objets ou des aliments, justement?
Je pense que pas quelque chose de très spécial parce que doucement, doucement, au fur et à mesure, on trouve d'autres magasins. Il y a beaucoup de magasins de différents pays, magasins orientaux, magasins de l'Asie, magasins de indien, le pakistanais, oui. on a trouvé des choses dans différents coins, mais il y a une chose qu'on a en Afghanistan, on a, je sais pas que c'est un plat parce que quelque part dit c'est un pas, quelqu'un dit que c'est un plat, on mange comme un plat, et on s'appelle bolani, on prépare avec un herbe spéciale, mais ici en France, je peux pas trop le trouver, et quelqu'un pousse,
plante?
Oui.
Sème.
Plante, mais c'est le grain, elle amène le grain d'Afghanistan et ça plante dans le jardin ici.
Oui.
Mais dans aucun magasin, je ne le trouvais pas. Non.
D'accord. Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle, on dit, dans notre langue, on dit gandana, mais en français, c'est comme poireau. Mais le poireau, c'est un peu pareil.
Un cousin
mais
du poireau.
Différent.
D'accord. Ok.
Mais le goût, c'est un peu plus fort que poireau.
Et dans les habitudes typiques, je me souviens que tu m'avais parlé de ton mari qui avait une expérience dans un train où il avait dit bonjour. Et ça m'avait fait penser à ça. Quelles habitudes ou quelles...
Ici, je pense que les gens, quand ils sont entre nous, on ne connaît pas, mais les gens disent toujours au revoir. Quand on rentre à un endroit, on dit bonjour, on dit au revoir. Mais chez nous, juste on dit au revoir ou bonjour à quelqu'un qu'on connaît, mais pas pour les...
Pas dans les magasins ou pas...
Oui, comme vous avez dit qu'une fois, mon mari, parce que toujours on prend le bus pour se déplacer, et on toujours on dit bonjour, au revoir, et il s'habitue. Et un jour, il a pris le train pour aller à Paris. Et quand il est descendu, il a dit au revoir, et après, il a vu qu'il a... Personne.
Il a dit au revoir à tout le monde en partant du train. Alors, ouais. Attends, c'est sympa.
Et une autre chose que dans chez nous, les gens boivent beaucoup de thé.
Oui.
Même pendant l'été, là-bas, il fait trop chaud qu'ici. C'est plus que 40 degrés, 43 degrés, 44 degrés. Mais encore, les gens boivent du thé très chaud. Et c'est une boisson préférée presque pour tous les Afghans.
D'accord. Toute la journée, ils boivent du
thé. Toute la journée et plusieurs fois dans la journée.
Ouais. Oui, c'est vraiment une habitude quotidienne.
Oui, oui.
Et entre l'Afghanistan et la France, alors, est-ce que tu peux parler un peu de ce qui est très très différent et de ce qui ressemble?
Et bien sûr que il y a beaucoup de différences parce que je pense que c'est comme incomparable.
Oui.
Parce que l'Afghanistan, c'est un pays qui est engagé de la guerre pendant longtemps et c'est la culture, le système administratif, le service de public, tout c'est très très basique. Et la culture c'est très très traditionnel. Mais la France, bien sûr, c'est un pays bien développé, bien industriel. Industrialisé et plutôt moderne, le système de gouvernement, c'est bien mis en place, les services publics, c'est... je pense que c'est pas possible. Oui, c'est incomparable.
Ouais.
Et surtout, la culture, c'est complètement différent. Mais il y a... Parce que la culture, quand on parle de culture, c'est une chose... très général, mais dans la culture générale, il y a petites cultures qui sont différentes. Il y a des différentes personnes, il y a des Afghans qui ont encore, ils sont presque, le niveau de culture, c'est un peu différent que la culture générale, c'est un peu moderne. Encore, il y a des familles comme ça. Mais en tout cas, en général, globalement, c'est incomparable.
Oui. Tu peux nous dire quelque chose en pachtoun, en dari?
Oui. En Afghanistan, il y a deux langues officielles, ouais. C'est pachtou et dari, mais la plupart des personnes parlent en dari. Mm-hmm. Et moi, je parle en dari aussi. Mais les gens qui parlent en pachtou...
Oui.
Peuvent parler en dari, mais malheureusement, la plupart des personnes qui parlent en dari peuvent pas parler en pachto. Moi, je comprends en pachto, mais je parle pas bien. C'est pour ça que je dis en dari. Je réfléchis un petit peu. Har kujo marz kashidan shumo pul bezanit. La traduction, ça veut dire que quelque part qui fait frontière, c'est comme barrière, vous pouvez faire un pont pour faire relation, pour être...
On peut faire des ponts au-dessus des frontières ou des barrières.
C'est plutôt la relation entre des humains.
Oui.
Quand quelque chose empêche entre les gens, vous pouvez...
créer des ponts.
Oui, pour refaire des relations.
Oui. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de participer à cette interview. Merci beaucoup à Radio Primitive, Émilie, Gustine de m'aider à concrétiser ce projet. Merci beaucoup à la médiathèque Simone Veil à Épernay et sa directrice Marianne Fuss de nous accueillir dans ses locaux pour réaliser les enregistrements. Enfin, merci à vous, auditeurs, auditrices, qui avez eu la curiosité d'écouter ce podcast et rendez-vous le mois prochain.